Bienvenue JPET Barbu, une série de portraits sonores en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux du site des Grands Causses qui suit l'arrivée de 4 jeunes JPET sur le territoire en lien avec le programme de réintroduction de l'espèce sur le site des Grands Causses et plus globalement à l'échelle européenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier portrait sonore sur la réintroduction des JPET barbus. Une série de reportages en partenariat avec la LPO Grands Causses, donc qui est la Ligue pour la protection des oiseaux, donc sur la réintroduction des JPET sur le territoire des Grands Causses. Un programme entamé depuis 2012 et qui a une visée européenne. Alors cette année, 4 jeunes JPET barbus sont arrivés sur le site. Nous avons suivi les étapes dans 2 autres portraits, leur arrivée, le premier envol, et aujourd'hui, presque un mois et demi plus tard, on va découvrir comment les oiseaux ont évolué dans leur nouvel environnement et comment ils s'adaptent à la vie sauvage. Alors pour cela, nous retrouvons dans nos studios cette fois-ci Cynthia Auger, animatrice nature à la LPO Grands Causses, qui nous avait accompagnée lors des 2 autres reportages. Bonjour Cynthia.
Bonjour.
Tout va bien ?
Ça va bien, merci.
Alors, la dernière fois qu'on s'était vus, quasiment tous les oiseaux s'étaient envolés. D'abord, Dolomi, qui avait fait un envol plutôt précoce, suivi des 2 femelles, Fario et Glazine.
Exactement. Elles avaient commencé à voler. Nos 3 JPAETs, maintenant, explorent beaucoup plus largement leur territoire, font des vols de très belle qualité et pour certains, très longs. Donc voilà, ils évoluent vraiment... Très très bien, on est très contents.
Ouais, j'imagine que les vols, ils n'ont plus rien à voir avec les premiers qui étaient un peu timides, où c'était assez drôle d'ailleurs d'écouter vos retours.
Oui, effectivement, au départ, il y avait eu quelques maladresses, mais là maintenant, on a des JPET qui se débrouillent très très bien, qui parfois volent ensemble. Hein. On peut parfois les observer par 2, voire par 3. Parfois, ils se retrouvent, parfois, ils évoluent plutôt chacun de leur côté, c'est variable. Mais ça se passe plutôt bien. Et on a également observé les premières tentatives de cassage d'os. Donc, une des spécificités du JPAET. Et là, ça y est, ça commence. C'est aussi une belle chose à voir dans leur progression.
Dans les derniers portraits, même si les oiseaux s'étaient envolés, la nourriture continuait à être apportée par les surveillants nature. Aujourd'hui, vous avez complètement arrêté le nourrissage ?
Alors non, pas complètement. Ça continue à se poursuivre en certains endroits. On continue à faire des dépôts de nourriture de manière un petit peu plus étalée pour quand même qu'ils aient des sites de référence sur lesquels se rendre si jamais ils n'ont pas trouvé leur nourriture par eux-mêmes. Mais on sait qu'ils commencent aussi à trouver certains endroits où trouver de quoi s'alimenter sans difficulté. Mais voilà, ça continue à se poursuivre un petit peu, probablement encore pendant quelques semaines.
Pour donc d'ici un peu quelques plus semaines, ils seront complètement, on va dire, indépendants et ils pourront se nourrir par eux-mêmes.
Logiquement, oui. Ça reste, ça reste à observer et à confirmer, mais logiquement, oui, c'est la tendance, oui.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus précisément sur chaque oiseau ? Par exemple, Dolomi, qui avait été le premier à s'être envolé, et les 2 femelles, pour commencer.
Oui, alors là je dirais que Dolomi c'est l'un de ceux qu'on a vu s'éloigner un peu plus rapidement, notamment quasiment jusqu'à Millau. À un moment donné, il est allé vers les gorges de la Dourbie. On l'observe pas forcément tous les jours parce que parfois il va assez loin, mais il revient aussi de temps en temps au-dessus de la Vire de Lâcher. Fario et Glazine, qui étaient les 2 femelles qui au départ partageaient un petit peu le même espace dans la Vire et qui avaient un peu tendance à se chamailler, on les voit fréquemment voler ensemble. Donc ça se passe plutôt bien entre elles. Et pareil, avec des retours sur les sites de nourrissage assez fréquents.
Et c'est intéressant parce que du coup, les 2 femelles, Fario et Glazine, ont été élevées plus ou moins ensemble sur le site de la Vire. On appelait ça comme ça, la Vire, c'est le nid qui avait été préparé pour leur arrivée. Et donc finalement, aujourd'hui, elles continuent à se suivre un peu et elles ne sont pas encore tout à fait solitaires puisque c'est des oiseaux qui sont solitaires.
Oui, alors...
À l'origine.
Voilà, alors après, les affinités entre les individus, c'est vrai qu'on voit que Fario et Glazine parfois volent ensemble, mais parfois Dolomi les rejoint aussi. C'est difficile de dire pour le moment ce qui va se créer entre eux ou pas, quoi. Il pourrait très bien y avoir une séparation aussi des trois à un moment donné, qui prendraient chacun leur, des directions différentes géographiquement parlant, ou bien rester à fonctionner ensemble. Pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Donc on est sur des observations un petit peu au jour le jour par rapport à ça.
Et je trouvais que c'est intéressant parce que ça, c'est des oiseaux qui peuvent aussi fonctionner par troupes. C'était une formule que je trouvais quand même assez... Enfin, on n'en entend pas forcément souvent parler.
Oui, on pourrait... Alors, pour l'instant, c'est très, très tôt, puisqu'ils ne sont pas du tout encore en âge de se reproduire, mais on pourrait très bien avoir deux femelles, un mâle, ou deux mâles, une femelle, par la suite, effectivement, qui s'entendent bien, qui forment donc ce fameux trouble pour installer ensuite une reproduction. C'est très, très prématuré pour envisager
ça. Bien sûr, bien sûr.
Mais bon, on aimerait bien avoir, effectivement, une reproduction sur les grands causes, c'est sûr.
Alors, apparemment, il y a donc du nouveau, parce que, disons que c'est une info qui est toute nouvelle, parce que quand tu es arrivée, tu m'as dit qu'il y avait eu un nouvel arrivant sur le territoire.
Exactement, on a eu le plaisir de pouvoir accueillir un cinquième gypaète qu'on ne pensait pas pouvoir accueillir au départ. Donc, il a été surnommé Aven. En fait, c'est une femelle. Hein. Donc, nous avons donc trois femelles et deux mâles cette année. Aven, donc, c'est une gypaète qui a été élevée au centre d'élevage des Green Balkans en Bulgarie, tout comme Ofris d'ailleurs, et qui au départ ne devait pas être lâchée parce qu'elle a eu plusieurs blessures. Elle a eu notamment une blessure à l'aile et elle avait le tibia droit fêlé. Donc le centre d'élevage l'avait gardée pour la soigner. Et finalement, on nous a annoncé qu'elle se remettait relativement bien de ses blessures et qu'on pouvait tenter le lâcher. Donc c'est assez particulier puisqu'elle est arrivée avec plus d'un mois de retard par rapport aux autres. Et puis un état possiblement un peu moins informe que les autres. Donc le lâcher a quand même été tenté pour elle.
Et à quoi étaient dues ces blessures ?
Alors ça, j'aurais bien du mal à le dire. J'ai pas trop d'informations là-dessus.
D'accord.
Je sais pas si c'est une chute ou une malformation, je sais pas trop.
Ok. C'est des oiseaux qui sont attachés à leur premier vol. Est-ce que leur premier vol s'est déroulé sur le site, malgré le fait qu'elle ne soit pas arrivée en même temps que les autres ?
Alors, en fait, là, on a pris le parti de relâcher donc Aven sur l'autre site, côté Lozère, que normalement, on n'utilisait pas cette année. On a pris ce parti-là pour qu'elle soit un petit peu plus tranquille, entre guillemets, et qu'on puisse l'observer à part par rapport à l'évolution des quatre autres gypaètes. Donc voilà, elle a passé... Elle est arrivée le 31 juillet, et au départ, elle ne bougeait pas énormément. Elle a beaucoup tardé à prendre son premier envol. C'est un oiseau qui est arrivé aussi dans un état de stress assez important, donc avec des difficultés de développement du plumage, des choses un peu fragiles, on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer. Et finalement, très timidement, petit à petit, elle a commencé à faire ses tout premiers vols, des vols très très courts au départ, vraiment, voilà. Et là, à l'heure actuelle, elle poursuit quand même sa progression en volant quand même plusieurs longues minutes par jour et avec des vols plutôt pas mal de ce qu'on peut observer. Mais elle reste vraiment autour de la vire de lâcher pour le moment. C'est un oiseau qui progresse doucement.
D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des altercations avec les autres ou des interactions plutôt ?
Alors, ce qu'on a observé comme interaction, c'est que nos deux gypaètes adultes qui sont côté Lozère actuellement, donc Leirou et Adonis, ont bien observé qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait une petite nouvelle qui était arrivée. Donc ils ont survolé le site, Aven l'a remarqué et elle a, à deux reprises je crois, fait un tout petit vol aux côtés de Adonis, sans mal, hein, sans aucune interaction négative. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu voir pour le moment.
D'accord, bon ben plein de nouvelles choses.
Voilà.
Il ne restait plus qu'un oiseau, la dernière fois qu'on s'est vu, qui ne s'était pas envolé, Ofris. Comment ça s'est passé pour lui ?
Alors Ofris, il avait commencé à faire quand même quelques vols. Hein. Il progressait très bien, au même titre que les trois autres. Et puis, à un moment donné, il y a eu une inquiétude, parce que pendant presque 48 heures, son signal de balise GPS ne bougeait plus. On ne le voyait plus voler. Bon. Au final, on est allé voir quand même de quoi il retournait. Et il se trouve qu'il était... Il était blessé, cet oiseau. On l'a retrouvé donc dans une position un peu en difficulté. Et donc, il s'est avéré qu'il s'était fracturé le fémur droit et qu'il était très affaibli. Donc, on a dû l'envoyer en centre de soins pour évaluer la situation et envisager la suite pour lui, bien sûr.
D'accord, mais alors pour le moment, vous n'avez aucune idée de ce qui a pu lui arriver, s'il a fait, il s'est fait ça tout seul ou si
alors,
c'est un animal.
On a des hypothèses, je pense que la vétérinaire qui l'a pris en charge nous en dira plus, mais ce qu'on a appris, c'est que donc, cette fracture du fémur avait probablement été provoquée par une très faible densité osseuse et possiblement une carence en calcium. Je n'en sais pas plus.
Pour essayer de bien comprendre, ça, c'est intéressant qu'on puisse avoir donc, cette vétérinaire qui est Marie-Pierre Pouèche, donc qui travaille au centre de soins de Ganges et qu'on va essayer d'appeler. On est au téléphone avec Marie-Pierre Pouèche qui est vétérinaire à l'hôpital de la faune sauvage de Ganges. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, vous pourriez nous présenter un petit peu cet hôpital parce que c'est vous qui en êtes à l'initiative.
Oui, je suis vétérinaire depuis 40 ans. J'ai travaillé à Ganges avec des agriculteurs. Je travaillais jusqu'au printemps là, dans une clinique vétérinaire et très engagée sur la faune sauvage. J'ai créé une association qui s'appelle Goupil Connexion il y a 26 ans, pour améliorer les prises en charge de ces animaux sauvages qui ne payent pas. Ça va de l'hirondelle jusqu'au gros vautour, aux aigles, etc. Toute cette diversité du vivant, du bien commun qui est souvent trouvé en bord de route, en bord de chemin, sous des lignes électriques, etc., en détresse. J'ai longtemps travaillé avec d'autres centres de soins, comme celui de Millau ou comme celui de la LPO. Il y avait une antenne sur Montpellier. J'ai créé en 2008, donc ça fait 13 ans, l'hôpital Faune Sauvage pour effectivement assurer, alors ça s'appelle un hôpital plus qu'un centre de soins, puisque il y a une présence vétérinaire au quotidien pour assurer des diagnostics, des expertises, des opérations, des radios et des investigations, donc, et pour organiser les soins au mieux pour assurer une meilleure prise en charge de la faune sauvage. Et donc, cet hôpital, pour donner juste une idée, on est parti en 2008 avec 70 animaux et l'an dernier, on était à 3400 animaux. Donc, c'est une start-up de fou qui ne paye toujours pas vraiment. On fait le SAMU social de l'animal. Il y a un vrai besoin sociétal de prendre en charge les animaux sauvages qui sont autour de nous, qui sont dans la nature. Et ça nous ramène aux grands vautours parce que eux, ils ont des soins particuliers puisqu'ils sont suivis par tout le projet, tout le travail de réinstallation des espèces depuis les années 80 par la LPO Mission Rapace, pour laquelle on a des contacts et on est en amitié réelle depuis longtemps.
Et alors, on va parler peut-être un petit peu plus tard précisément de Ofris, qui est un gypaète barbu. Mais alors, c'est-à-dire que quand vous dites faune sauvage, c'est pas forcément les oiseaux, ça peut s'étendre sur d'autres espèces.
Alors l'an dernier, pour vous dire les top 10 que j'ai pas en tête, mais de mémoire, on a réceptionné 805 martinets noirs. On a des hérissons, on en avait eu 250 l'an dernier, cette année on en a encore beaucoup. On a des écureuils, des renards, des blaireaux, donc on a des mammifères, des oiseaux. Dans les oiseaux, on accepte, on fait un lieu où on accepte les pigeons et les tourterelles. On essaie de faire avancer l'humain, là moi c'est mon côté vétérinaire scientifique, l'humain qui n'a pas le cerveau capable de trier l'animal très rare, l'animal à protéger et l'animal dit nuisible, l'animal qui est de trop. Et je pense qu'on est sur ce chemin de, avec l'histoire du Covid en plus c'est très intéressant, sur ce chemin de faire apprendre à l'humain de tous les âges, donc on est vraiment un lieu de soins mais aussi un lieu d'apprentissage, de formation, de connaissances. Tous les animaux, toute la vie autour de nous est nécessaire et l'équilibre doit se faire sans que l'humain soit en charge de la gestion. Donc c'est vrai qu'on s'occupe d'oiseaux qui sont classés nuisibles ou indésirables. On soigne tous ces animaux et chemin faisant, ça c'est le projet qui est sous-tendu par l'association et l'hôpital, c'est on va faire changer l'humain pour qu'il comprenne qu'une nature en bonne santé, de la pie jusqu'au gypaète barbu, ce sont des humains en bonne santé. Donc on a besoin de réparer des espèces, on a besoin de réparer des espaces, et vous êtes vraiment confrontés à ça avec les expositions au plomb qu'on trouve dans la nature, ou avec les lignes électriques, on a besoin de réparer des espaces pour que l'écosystème, par exemple des vautours, retrouve son chemin, mais ça va aussi réparer des espaces urbains, ou pour que les hérissons ne soient plus en folie, parce qu'aujourd'hui on les écrase, on clôture, on déménage, on est en train d'exploser la nature. Et effectivement, on a besoin de rendre l'humain un peu émerveillé d'abord et chemin faisant, capable de vivre avec toute cette nature. Voilà. Donc réparer les humains, réparer des espèces et réparer des espaces. C'est le job qu'on s'est donné à Goupil Connexion. Sur les 3400 animaux, la moitié va mourir, plus de la moitié à peu près, parce qu'ils arrivent trop faibles, ils meurent dans les quelques jours qui vont suivre, mais presque plus de la moitié, autour de 50%, vont repartir. Donc c'est là où c'est intéressant. On fait des relâchés publics, on fait des relâchés agricoles chez des agriculteurs qu'on rend compétents, qui ne veulent plus utiliser de morora, qui apprécient le faucon, la chouette, les hérissons, qui ne veulent plus débroussailler n'importe comment. On essaie de retrouver, par les relâchés, aussi des lieux oasis où, soit avec des agriculteurs qui deviennent biocompatibles, biodiversité compatible, qui ont des placettes pour recycler leur mortalité, mais qui eux aussi aiment la nature. Donc on remet des hirondelles dans les fermes, ça c'est un grand projet. Mmh. Voilà.
Donc vous faites des sensibilisations aussi.
Réconciliation.
Et alors, on va parler un petit peu donc d'Ofris, qui est le JPAT qu'on a suivi dès son arrivée donc sur le site des Grands Causses. Alors, il est arrivé à quel moment dans votre centre ?
Alors, il est arrivé chez nous le 19 août, ça veut dire un peu presque un mois. Il avait 157 jours et il était arrivé de Bulgarie. Il est né dans le centre des amis là qui sont au Green Balkans, qui font naître des vautours. JPAT en captivité. Ben, c'est un oiseau très beau qui faisait, quand il est arrivé, 5,5 kg. Il avait quelques mois. C'est un bébé. Mm-hmm. Et il avait volé dès le 132e jour, donc environ à 4 mois et demi.
Oui, ça avait été le dernier oiseau à s'envoler de la vire.
Voilà. Et le premier vol. Et quand il est arrivé, 20 jours après, ils l'ont retrouvé au sol. Alors, grâce à sa balise, et c'est ça qui est super, toute l'équipe qui suit a pu le repérer très vite. Il était pas loin d'une falaise. Et ce qui était bizarre, donc il avait perdu un peu, il faisait 4,7 kg. Et il avait une fracture spontanée sur un fémur, une patte, qui l'empêchait de redémarrer. Il avait pas mal de poux, il n'était pas en bon état. Et en fait, grâce au suivi que vous exercez et au GPS, vous avez pu le retrouver, je pense que très vite, sur un jour ou deux, c'est ça, hein?
Oui, 48 heures, je pense, oui. Ça a duré 48 heures.
Très vite, ils l'ont amené le jour même, 2 heures après. On est à 2 heures de route environ, ou 1h30 des Grands Causses. Et là, j'ai pu faire une radio tout de suite. L'intérêt d'être vétérinaire et d'avoir encore toutes mes capacités de faire des chirurgies et de faire des radios, etc., des diagnostics. J'ai très vite vu que, heureusement pour lui, il n'avait pas été un choc électrique, une ligne électrique, et que c'était plus une fracture spontanée sur un humérus, le fémur, une des pattes, et qui est très importante pour le portage. Et vu l'état de l'oiseau, vu le fait, bon, l'expérience que j'ai, et vu le fait que le fémur est englobé dans une cuisse, donc très musclé, j'ai pas voulu faire des chirurgies, on l'a laissé dans un enclos court, petit, on a commencé à le renourrir, on l'a déparasité, il a donc boité pendant quelques jours, et très vite, au bout de 15 jours, un jour, il a commencé à bien appuyer sur son pied. Dans la mesure où il était nourri, soutenu, calcifié, parce qu'on a rajouté du calcium, etc., dans sa nourriture.
Donc, il était en carence de calcium, c'est ça ?
Oui, visiblement, aucun choc, c'est pas un choc voiture, c'est pas un choc ligne. Donc on peut dire que cet oiseau jeune, en fait, il se casse naturellement. Donc là, il y a des vraies questions qu'on se pose. J'en parle juste après. Donc déjà, pour lui, c'est une belle aventure parce que il est très en forme. Et là, il est à une semaine de vous le rendre, que vous veniez le chercher pour qu'il reparte dans le ciel des Causses, parce qu'il est en pleine forme. Voilà. La question qui se pose, parce que ça, c'est très intéressant, pourquoi ce jeune oiseau aussi bien nourri, il était libre, donc il pouvait aussi se nourrir comme il pouvait. Pourquoi, comment il se casse naturellement, si fragile. J'ai 3 vautours qui ont eu des problèmes d'os aussi. Et on se pose, ça c'est une question qu'on est en train de traiter. On va faire une investigation pour voir la présence du plomb en termes, le saturnisme étant l'intoxication chronique, l'exposition au plomb. Alors, lui, Ofris, c'est un très jeune oiseau, donc c'est pas possible qu'il soit très vite empoisonné. Mais on se pose la question de savoir si trouve des cadavres d'un animal qui a pu mourir d'un reste de chasse. D'ailleurs, à la chasse, quand ils sont plombés, les animaux, ils ne sont pas toujours récupérés. Ils peuvent aller mourir dans un coin. Et on hérite de 300 ans d'une exposition chronique dans nos terres du sud, française, d'une chasse qui laisse des plombs de plomb, donc des petites particules de plomb qui augmentent la possibilité de faire que le milieu devienne surchargé en plomb. On est en train de faire une investigation dans laquelle on aura des résultats dans quelques mois. Sur Ofris, on aura des résultats sur la présence ou pas du plomb et surtout pouvoir différencier le plomb d'origine tellurique, minière, du plomb d'origine humaine, c'est-à-dire lié à l'exposition, la décharge de plomb qu'on multiplie depuis plusieurs décennies. Mmh. Voilà. Parce que pour finir l'histoire du plomb, le plomb favorise une fragilité osseuse. Et là qu'on a, cette année, on a 3 oiseaux qui ont montré des fragilités osseuses spontanées. Les vautours sont hyper plus sensibles que d'autres espèces. Donc ce sont des indicateurs de la qualité du milieu. Et ça va être intéressant de se dire, dépêchons-nous, comme à l'instar de la Californie, pour sauver le condor, ils ont mis dans les mains des chasseurs des munitions sans plomb à l'acier et qui fonctionnent depuis des années, des dizaines d'années. Et donc chez nous, il y a cette urgence de sortir de la toxicité. On sait que le plomb est toxique chez l'homme. C'est grave, gravissime. Remercions la nature d'être autour de nous et de nous montrer son état de santé. Parce que l'état de santé de la nature qu'on se doit de réparer, elle parle de nous.
Elle nous avertit aussi.
Pardon ?
Elle avertit.
Elle est c'est un peu notre indicateur de qualité de vie. Et donc, on a tous besoin de vivre longue durée, en bonne santé. L'écosystème, et ça, travaillant depuis des années avec toute la restauration des 4 espèces de vautours français, il est capital que l'écosystème du recyclage revienne et refonctionne naturellement. Donc là, on a une chance inouïe de vivre, nous. Moi, jeune véto, il n'y avait pas encore de vautours en France. Et là, aujourd'hui, on vit la restauration de cet écosystème grâce à vous, grâce à un travail immense qui est fait par les frères Terrasse et tout ce qui suit. Et on a besoin que...
La LPO Grand Cause.
Et puis, par exemple, la restauration du JPL, c'est magnifique. C'est l'idée de faire en plus la connexion entre les noyaux espagnols avec les noyaux de l'Est de l'Europe, alpins et l'Est de l'Europe. C'est capital que la France montre l'exemple sur la qualité de nos territoires et la qualité aussi des humains qui y vivent. Mmh. Et remettre des vautours autour de nous, c'est pas repartir à la bougie dans la caverne. Il y a quelque chose, moi, comme vétérinaire, je suis terrifiée, et je suis une des rares à le voir. On entend des fois à la télé, les journaux, encore des vautours ont attaqué, bla bla bla. Quand on sait ce que c'est que le recyclage, aujourd'hui, pour nous, chez nous, en Cévennes, moi je suis à Ganges, les déchets, s'ils ne sont pas la nature qui les récupère, qui les recycle, on paye des camions pour faire 1200 km aller-retour, pour aller faire brûler avec du pétrole les cadavres dans des cimenteries qui sont au nord de Clermont-Ferrand, au nord de Vichy. Donc tant qu'on n'aura pas compris les impacts climat, les impacts CO2, les impacts routiers de ce que signifie sur une ligne Bordeaux-Genève, où là on a 2 centres de brûlage uniquement pour tous les déchets d'origine élevage, on parle bien de ça, ça monte au nord de Vichy pour brûler, faire des incinérations et fabriquer du ciment, donc du béton. Donc on marche sur la tête et effectivement aujourd'hui, le climat bouge, la santé publique est en inquiétude, les agriculteurs sont inquiets de ce qu'ils deviennent aussi, et on est encore en train de se poser des questions. On s'aperçoit que le territoire est peut-être toxique chroniquement, ça c'est le côté plomb qu'on va investiguer, avec l'aide aussi du Live Jeep Connect et des gens qui travaillent à la LPO Mission Rapace, mais il est urgent que notre nature dans laquelle on va vivre des siècles et des siècles encore, on n'a qu'une planète, on soit capable en Europe et en France, pays riche s'il en est, de réinstaller par exemple le recyclage dans un esprit de bio-recyclage. En réinstallant effectivement les 4 espèces de vautours, mais en réinstallant aussi les 80% des invertébrés qui assurent le recyclage gratuitement. En rigolant, on dit... Les vautours, c'est le dernier service public gratuit, remercions-les, en France. Voilà, c'est ce travail-là qu'on aimerait un peu laisser aux jeunes générations. Regardez les volets, ils sont pour quelque chose pour notre santé, la santé de la planète, la santé du climat. Mmh. Agissez à leur côté, agissez aux côtés de ceux qui, comme vous, travaillent à la restauration de cette très belle espèce qu'on avait pensée ne plus voir chez nous. Hein, c'est intéressant. Le JPAET, vous avez vu dans les vieilles grimoires, il est mis dans tous les pays. On pensait qu'il était un oiseau enlevant les chassant.
Oui, c'est pour ça qu'il a disparu. C'était un oiseau qui faisait peur parce que c'est le plus gros rapace d'Europe. Il est très très grand, surtout quand il a les ailes déployées. Donc c'est vrai qu'il est impressionnant. Et il y avait beaucoup dans les livres, en fait, on disait que c'était un oiseau qui enlevait les nouveau-nés.
Ouais, les enfants, ils pouvaient enlever les agneaux. Et on voit toutes les images, on voit un énorme oiseau. C'est vrai que c'est un magnifique oiseau. Et effectivement, quand on sait qu'il ne mange que des os et qu'il prend un temps fou à tenter de les casser sur des cailloux, des pierriers, saluons-les et remercions-les. Et c'est vrai que c'est magique. On apprend à l'école à lire, écrire, compter. On apprend à faire un boulot. On essaie de trouver un boulot qui va. Mais apprendre la nature dans laquelle on est, qui compagnonne avec nous, qui fait partie de nous et qu'on n'aurait jamais dû oublier, ben, il est urgent de l'installer dans nos cours d'école et dans nos lieux qui parlent. Donc, effectivement, ce JPAET, waouh, quelle beauté, quelle magnificence, et comment va-t-on vivre avec les uns avec les autres? Et toute l'idée de, moi, comme vétérinaire, je suis un peu interface avec beaucoup de lieux, je suis interface avec la santé publique. On veut pas que les hommes soient malades des animaux, donc on flippe, ben, du Covid, on flippe de la tuberculose, on flippe des maladies graves, de la peste, de la rage. Mais par contre, en étant un peu vétérinaire engagé, écologue, éco-pathologiste, on se sait aussi que aujourd'hui ce sont les animaux qui sont malades des hommes. Aujourd'hui, les hommes, ayant perdu le lien, la compréhension de ce qu'ils faisaient les uns avec les autres, on voit que ce sont les humains qui sont fous. Ils font des routes, alors que depuis longtemps on pourrait faire des routes qui fabriquent de la vie, qui n'en tuent plus. Des routes avec des connexions en dessous, des corridors de vie. On a besoin de lignes électriques, on a un aigle royal qui a pris une ligne, qui ne revolera jamais. Le nombre de vautours qui ont pris des lignes électriques, on voit bien qu'il faut que les générations d'après inventent la transport électrique, peut-être en onde. On va inventer autre chose, sans fil. Donc on a besoin d'inventer l'humanité 2.0, celle qui va pouvoir réinstaller, sortir de sa caverne, ne plus avoir peur des autres, ne plus avoir peur de ces oiseaux qui ne connaissent pas ou de cet animal qu'on ne connaît pas. Et puis comprendre ce qu'il fait à nos côtés et fabriquer des gestes, des nouveaux gestes agricoles. Donc, je redis que je suis très attachée à l'agriculture et l'élevage qui doit être un promoteur, un coproducteur de biodiversité. C'est eux qui travaillent tous les jours dans la nature. On a besoin de jeunes agriculteurs et d'agriculteurs attentifs à ces enjeux qui traitent autant de qualité de vie, de qualité de rémunération, mais qualité de planète, qualité de climat. Donc voilà, on a besoin de cette réconciliation. Remercions Offrisse de l'avoir croisé, parce que combien de temps ils vivent, un grand JPAET comme ça? Il est destiné à vivre combien d'années?
Oh, on est sur une trentaine d'années à peu près.
Voilà, 30 à 40 ans. Et toute l'idée de les relâcher comme ça, les relâcher dans les grands causes, on espère les premières reproductions chez nous dans les Cévennes causes, d'ici quelques années.
Hein. On espère, oui, c'est sûr.
Et là, ce serait magique. Et pour que ces animaux vivent, il faut que les humains en deviennent attentifs, en deviennent curieux, en deviennent soigneux. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, on remercie Offrisse, et lui, dans une semaine, je pense qu'on pourra le faire repartir avec des belles images au vol.
Super.
Je vous en envoie quelques-unes, si vous voulez, tout à l'heure, qui sont quand il est encore en soin chez nous, dans la volière.
Oui, et donc ces photos, vous pourrez les voir en ligne sur le site internet de la radio, donc radiolarzac.org, et puis je pense qu'il sera aussi sur le site de la LPO Grand Causse.
Oui, on diffusera aussi des nouvelles toutes fraîches d'Offrisse, bien sûr.
Voilà.
En tout cas, merci à vous, Marie-Pierre Pouech, pour ce témoignage. On sent que voilà, vous avez été confrontée à plein de choses avec les arrivages des animaux. On sent beaucoup de vivacité dans votre témoignage et merci beaucoup pour ça.
Eh ben, merci à vous. Très bonne journée.
Merci, Marie-Pierre.
Au revoir.
Bon, Cynthia Auger, toujours avec nous sur ce plateau. Par curiosité, hein, par exemple, si Offrisse n'avait pas été en capacité de retourner à la vie sauvage, comment ça se serait passé pour lui? Est-ce qu'il y a un endroit où il serait accueilli?
Alors, quand on arrive à faire en sorte que les vautours blessés de cette façon-là puissent quand même récupérer leurs blessures, mais pour autant ne sont pas capables de retourner à la vie sauvage, comme c'est arrivé pour un de nos JPAET il y a plusieurs années, à ce moment-là, ces oiseaux-là réintègrent le réseau de captivité. Voilà.
Alors, on va revenir un petit peu sur les autres oiseaux et puis aussi dans la façon dont ils ont été encadrés. Donc, dans les autres portraits sonores, ils étaient encadrés par une équipe de surveillants nature. Qu'en est-il de cette équipe ? Est-ce qu'ils sont toujours sur place ?
Alors là, la plupart des surveillants ont terminé leur contrat très récemment, là, les jours qui viennent de s'écouler. Donc on avait une équipe de 5 personnes, réduite maintenant à une seule personne qui termine son contrat début octobre. Donc forcément, la pression d'observation va être moindre à partir de maintenant. C'est l'évolution normale, hein, voilà. Donc on continue quand même à avoir des nouvelles très régulières de nos oiseaux. Et puis ensuite, ça va s'espacer un peu plus. Mais on a quand même un œil très attentif sur leur suivi, notamment par les informations qu'on a par les balises GPS et puis quand même des personnes qui se rendent régulièrement de l'équipe sur le terrain pour les observer et suivre leurs déplacements, leur évolution. Et puis on a toujours des points de nourrissage réguliers pour le moment qui sont faits à destination de nos jeunes gypaètes.
Alors, ce sont des oiseaux qui peuvent, donc on l'a dit tout à l'heure, voler très loin, dans leurs premières années surtout, avant de se reproduire, même traverser plusieurs territoires. Est-ce que ça commence à se ressentir dans leur réaction ? Dans leur trajectoire.
Alors pour le moment, on n'en est pas à des territoires immenses de parcourus, pour l'instant, hein, au jour à l'heure où
bien
on parle.
Sûr, ouais.
Mais on a quand même des belles explorations de l'environnement de la région et de l'environnement proche. Tout à l'heure, on parlait de Fario, par exemple, elle a effectué... Il y a quelques temps, une belle boucle en traversant toutes les gorges du Tarn et en revenant ensuite sur le site de Laché, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant, donc c'est un très bon exemple. On a Dolomie qui s'aventure largement dans les gorges de la Dourbie, quasiment jusqu'à Millau. On a les causses qui sont bien bien explorées, donc oui, ça fonctionne plutôt bien là pour le moment, voilà.
Et alors, c'est à peu près à quel moment qu'ils vont commencer à s'aventurer un peu plus loin ?
Alors ça, on ne peut pas le dire.
On ne peut pas le dire.
On ne peut pas le dire, ça pourrait déjà être le cas. Il y en a qui peuvent vraiment prendre beaucoup plus leur temps. On en a qui, parfois, ne quittent pas plus que ça le territoire. C'est vraiment très, très variable d'un individu à l'autre.
Est-ce qu'on peut rappeler où s'est situé le lieu du lâcher ?
Oui, le lâcher, là, cette année, était côté Aveyronnais, donc dans les gorges du Trévezel, non loin du hameau de Cantobre. Voilà.
Est-ce qu'ils ont des habitudes, des zones où il est peut-être plus fréquent de pouvoir les observer ?
Alors actuellement, on peut les voir régulièrement voler autour de Cantobre, autour de Nantes, non loin du village de Revins également. Et après, bon, c'est un peu plus aléatoire. c'est dans cette zone-là, globalement.
Et peut-être pour les gens qui ont envie de s'intéresser d'un petit peu plus près, tout à l'heure on parlait de zones GPS.
Oui, alors là, à partir de maintenant, les balises GPS sont consultables par le public
donc
sur
les balises
notre
GPS
site internet.
Dont sont constitués les oiseaux, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait. Les balises qu'on a installées sur les oiseaux relâchés cette année. Voilà, le grand public peut désormais accéder à ces données-là. En consultant la page internet, je donne déjà l'adresse peut-être.
Oui, on peut la dire maintenant et on la redira plus tard aussi.
Alors donc, vous allez directement sur le site qui correspond au suivi des gypaètes. Donc c'est http://. Donc rapace au pluriel, .lpo.fr/jpaète au singulier cette fois, -6grand-6cos. Bon, c'est rapace LPO, jpaète grand cos. Et là, vous avez une page, un onglet qui renvoie au suivi des oiseaux avec tous les oiseaux répertoriés. Et donc la balise GPS, par contre, c'est pas en temps réel. Les balises, elles donnent une à deux données par jour en temps normal. Donc on peut avoir la dernière position de l'oiseau et l'historique de ses déplacements sur les jours précédents.
C'est-à-dire qu'on peut se connecter et, voilà, et voir l'oiseau.
Voilà, la carte est directement, la carte est directement en ligne, en fait. Donc voilà, ça peut donner une indication des zones parcourues prospectées actuellement, quoi.
Par rapport à l'adaptation dans leur environnement sauvage, est-ce qu'ils s'habituent aux autres rapaces, les aigles, les vautours fauves, comment la cohabitation se fait ?
Bon, on observe régulièrement des interactions avec d'autres espèces. Alors, on voit beaucoup par rapport aux vautours fauves. Alors, ça peut être des vols plutôt calmes où il n'y a pas spécialement d'interaction, mais parfois il y a quand même, par exemple, on a vu l'un des gypaètes qui vraiment repoussait, pourchassait puis repoussait un vautour fauve parce que il arrive encore qu'ils descendent en nombre sur leur site de dépôt de nourriture. Donc là, il y a un peu de conflit. Donc ça peut être des petites interactions brèves, des petites prises de serre en l'air, ça donne lieu à des images assez intéressantes. Les interactions avec l'aigle royal peuvent être plus problématiques parce que l'aigle royal est vraiment dans une idée de défense de son territoire de manière parfois très virulente. Ça pourrait être dangereux pour les gypaètes, hein, mais bon, pour l'instant il y a eu effectivement des interactions sans gravité et après logiquement chaque espèce... se répartit, on va dire, sur le territoire pour que ça arrive moins. Et voilà, ça reste à surveiller.
Et au niveau des autres gypaètes qui ont été amenés sur le territoire les années précédentes, il y a aussi des interactions avec les nouvelles générations?
Bah, en général, oui, on met le terme de curiosité sur les anciens gypaètes, entre guillemets, qui viennent voir un peu ce qui se passe, qui parfois font des petits vols avec les nouveaux. Pour l'instant, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mmh. Voilà, on a observé ça avec Aven, notamment, qui a déjà vu Adonis et Leirou. Mais... voilà. Mmh. Et Glazine, une de nos femelles de cette année, est allée voler aussi du côté de là où avait été lâchée Aven. Donc on suppose qu'elle a observé les choses aussi. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus.
De toute façon, contrairement aux vautours fauves, c'est des oiseaux qui sont relativement solitaires, à part pour les moments de reproduction.
Oui, ils ont une logique de couple ou de trouble, comme on a dit tout à l'heure. Et après, chez les jeunes, parfois, on a des affinités quand même qui peuvent se créer, où on les voit fonctionner parfois un peu en binôme, mais après, chacun fait plutôt son chemin, de ce qu'on a observé les années précédentes, en tout cas.
Alors, dans ce portrait sonore, donc on est donc à la dernière étape de leur réintroduction. Après, ça sera la loi de la nature. Et donc, l'année prochaine, vous allez recevoir d'autres oiseaux, j'imagine?
On espère. Oui, c'est prévu, en tout cas, pour que les lâchers puissent se poursuivre, parce qu'on est encore au début de l'aventure.
Mmh. Toujours sur le même site?
Alors, logiquement, l'année prochaine, ça devrait être côté Lozère.
D'accord.
Puisqu'on alterne.
Et alors, comment tu envisages, avec, j'imagine, toutes les personnes qui sont derrière toi, la suite de ce projet de réintroduction, est-ce que ça porte ses fruits jusqu'à présent?
Pour l'instant, on a quand même un certain nombre d'oiseaux qui ont été relâchés. Alors, on a eu un certain nombre d'oiseaux qui ont quitté le territoire ou dont on n'a pas d'observation récente ou qui sont morts, mais on en a un certain nombre quand même qui sont encore là ou qui circulent. Donc, c'est difficile pour l'instant d'avoir un recul très précis sur l'évolution de ces lâchers. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on poursuive sur plusieurs années parce qu'un tel projet de réintroduction, ça demande de toute façon du long terme. Ça demande aussi que les autres territoires sur lesquels il y a des lâchers ailleurs, que ça se poursuive également à leur niveau pour qu'on puisse commencer à observer les premières connexions, que des couples puissent à terme s'installer, etc.
D'ailleurs, donc, pour bien comprendre l'ensemble du programme de réintroduction des gypaètes barbus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la radio, radiolarzac.org, pour retrouver l'émission 83 de l'Actu sur un plateau. Nous avions reçu Léa Giraud de la LPO Grand Causse aussi, et Laure Jacob du Parc Naturel Régional des Grands Causses. Toutes les deux ont très bien expliqué le projet dans sa globalité. Et puis, pour retrouver les deux autres projets sonores, portraits sonores, c'est dans la rubrique Le Retour du Gypaète barbu, et j'imagine qu'il sera aussi en ligne sur le site de la LPO Grand Causse.
Oui, tout à fait.
Ah, donc, Cynthia, est-ce que vous avez prévu des événements pour la suite?
Oui, alors voilà, je voulais aussi parler d'une journée d'observation nationale, même internationale, du gypaète barbu qui va avoir lieu le samedi 3 octobre, donc très prochainement. Donc c'est un peu un réseau d'observateurs qui vont être répartis en différents points du territoire pour tous se coordonner sur le même créneau horaire pour observer, recenser toutes les observations de gypaète barbu qui seront faites à ce moment-là. Et donc on organise du côté de la LPO Grand Causse un point aussi d'accueil pour le grand public pour que les gens également aient l'occasion de participer à cette observation. Donc ça se passe sur inscription et donc directement auprès de la LPO Grand Causse. Donc ça, s'il y a des
sur
personnes
sur le site
qui sont
de la LPO.
Alors ce sera directement auprès de moi sur le. Je laisse déjà peut-être le.
On
le
peut
le
laisser
numéro,
peut-être un numéro, une adresse mail pour les gens qui ont envie de s'inscrire dès maintenant. J'imagine que les inscriptions sont ouvertes.
Ils peuvent déjà nous contacter. Donc ça, c'est au 07 76 11 40 27. Pour s'inscrire, pour obtenir des détails, toute information par rapport à ça.
Et pour se tenir informé sur l'actualité des gypaètes, c'est sur le site internet. Peut-être qu'on peut le redonner aussi avant de se quitter.
Donc voilà, c'est toujours sur ce site qu'on publie des nouvelles régulières de nos oiseaux. Donc rapace au pluriel .lpo.fr/gypaète-6grand-6cos.
Eh bien voilà, c'est entendu ici. Merci à toi Cynthia.
Merci
pour,
beaucoup pour
nous
votre accueil. Merci.
Avec grand plaisir et à très bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le portrait sonore intitulé « Bienvenue, JPAED Barbu ». N'hésitez pas à redécouvrir cette émission ainsi que les autres étapes de réintroduction en podcast sur radiolarzac.org.